cul de l'église.
On va pas y passer la nuit.
À la bonne heure.
Au cul de l'église.
Et moi, le chum, le chum, le chum.
Molo sur le Destroy.
Bon, on va pas y passer la nuit.
Reste ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses si Dieu veut. Un jour vaincra la rabia del pueblo.
On est les seuls à pouvoir bousculer les choses.
On va pas y passer la nuit.
Cul de l'église, mon gars.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Oh le mal poli.
Salut.
Bienvenue au cul de l'église pour une édition préparée aux petits oignons. Comme chaque semaine, nous refaisons le monde et chargeons tête baissée pour offrir à vos oreilles le spectacle auditif le plus édifiant de toute l'histoire acoustique. Accrochez-vous, c'est la 102e et c'est de la bonne. Comme je vous le disais précédemment, la foule immense de chroniqueurs a afflué dans le studio comme un troupeau de brebis pendant l'attente. Ils se sont battus jusqu'au sang pour être les premiers de mon conducteur et le plus fort d'entre eux est là, présent. Son corps d'athlète n'a que faire des coups. Sa cruauté terrifiante à l'égard de ses ennemis tient à l'écart les moins tenaces. Et quant aux plus forts d'entre eux, il va de soi qu'ils gagnent leur respect. Merci d'applaudir le champion de cette arène, Momo.
Ouais,
salut.
On se regardait tous, ce petit.
Surprenant.
Très. C'est pas moi. Hein.
Ah bon? Bah, je sais pas, t'es le premier à avoir
ça
eu...
Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, là.
Ah, je sais, mais bon, t'es quand même le premier à avoir eu un semblant de texte affiché. Bref.
C'est sportif, j'avoue.
En deuxième place, le non moins acclamé subalterne du navire Chag-Chag est sur le pont. Connu comme le meilleur étarqueur de drisse de la planète, il est capable, à l'oreille nue, de reconnaître un globicéphale en route à 5000 de distance. Mais ne nous attardons pas sur ce personnage de légende. Merci d'écouter Antoine, le choqueur d'écoute de grande voix.
Bonsoir à tous, merci Shams.
Mais de rien, de quoi vas-tu nous parler ce soir?
Je vais vous parler de Data Gueule.
Super.
Data ta gueule.
Ouais, un peu date ta gueule quoi, la chaîne YouTube.
Bien évidemment, en troisième position, c'est un autre acharné qui a pu faire sa place, car présent à l'heure, je ne saurais plus vanter les mérites de l'homme qui est ici, non pas parce qu'ils ne sont point fantastiques, mais plutôt parce qu'ils ne m'ont pas marqué. Yves, bonsoir.
Ah mais merci Cham, c'est sympa.
Troisième place. Bref, tu viens nous parler de quoi ce soir?
Juste, je vais dire une petite citation comme ça.
D'accord.
En passant.
En quatrième place, c'est Cacapo qui a fait un score peu avantageux au vu de son handicap. Il s'est pas volé.
Et ouais.
Sa mémoire à court terme est sévèrement altérée. Son système d'exploitation est complètement has-been. Bref, ne sachant qu'en faire, on l'a mis à la présidence de Radio Saint-Taf. Ça consomme quelques bières, certes, mais ça marche bien dans l'ensemble. Cacapo, bienvenue parmi nous.
Ça va tout le monde, bonjour, et ben ouais, ça va, impeccable.
Tu viens nous parler de ?
De la Grèce, une pétition pour la Grèce.
D'accord, voilà. C'est beau d'être président. En cinquième place, c'est une déception amère que de savoir Adeline en mauvaise passe, alors qu'elle était bien partie en début de saison. Heureusement, ceux qui n'avaient pas parié comme moi n'ont pas perdu trop d'argent. Elle a déjà survécu à la misogynie ambiante, ce qui est déjà un beau score en soi. Adeline, c'est un honneur de vous avoir à nos côtés.
Merci, qu'est-ce que je dois répondre à ça?
Je sais pas, ton sujet?
Soit t'as préparé un paragraphe comme Shams ou ça.
Merci. Moi je vais vous parler de tests psychotechniques. Non mais en vrai c'est sympa, ça va être drôle.
Et c'est pour faire quoi?
C'est pour faire quoi? Ça, pour avoir le droit de conduire.
Waouh.
Wow.
C'est trop la classe.
Non mais ça va, cache ton enthousiasme.
Ouais, bref. Donc en sixième place, hélas, je ne puis que peu recommander ce personnage. Issu des bas-fonds de Saint-Afrique, son goût immodéré pour les systèmes de diffusion l'a amené à parasiter nos antennes. Accroché au mât comme une sangsue, il suçait jusqu'à nos fils électriques pour absorber le cuivre nécessaire à sa reproduction. Bref, pour enrayer le processus et éviter que d'autres organismes ne se développent dans la nature, nous l'avons capturé et enfermé dans le studio pour observer son comportement in situ. Merci d'étudier avec nous ce soir Clément, la créature la plus surprenante du système solaire.
Eh bien, écoutez, merci Cham, j'en attendais pas tant de votre présentation. Je me pose juste la question de ce classement. Est-on obligé de classer ses propres chroniqueurs? J'en doute.
Ouais, moi aussi, j'en doute beaucoup.
Quand je suis rédacteur. C'est moi le chef. Non, rédacteur-chef, il y a chef.
Ouais, donc, mais chef.
Toi qui commande.
Chef d'orchestre.
Mais chef, c'est bon juste pour se faire
et bien
rien.
Sûr, le bras de la censure qui, heureusement, sera là pour m'aider contre tous ces infâmes. Jean à la technique ce soir.
Et la Drôme.
Adair. Ah,
bon. Il n'y a même plus besoin d'ouvrir son micro, le mec est devenu tellement un mythe, quoi. Lui, tout
voilà.
Ça.
Merci, Jean. Sans toi, je sais pas comment
on va le surnommer comme ça d'ailleurs maintenant.
Le mythe.
Mais tout de suite, c'est Momo. Non,
là, c'est mieux que
le bal. Capitaine, nous attendons vos ordres.
On va pas y passer la nuit.
Cul de l'église, mon gars.
Yes, aïe, salut les amis, c'est Momo, je suis de retour, atterrissage imminent, je ne sais pas trop encore si les roues ont touché le sol, je crois que ça plane encore un peu, ou bien que c'est juste une constante. Je vais revenir sur la fin de mon voyage, donc la traversée de l'Atlantique s'est faite avec pertes et fracas, mais la terre est en vue, une île, la Martinique. Les drapeaux français flottent au vent. C'est un peu bizarre d'arriver en France après tant de milles parcourus. Mais c'est vrai que 2-3 trucs me font dire que c'est un drôle de bout de France perdu dans les Caraïbes, inondé de rhum à l'ombre des cocotiers. Moi, j'ai plus un rond et quoi que j'envisage, ça va passer par la case boulot. Je cherche donc du taf en tant que cuisinier, car vu tous ces touristes, il faut bien les faire manger. Mais on me dit que c'est la fin de saison et qu'on débauche plus qu'on embauche. Dommage. Il ne me reste plus que 30 euros et là, c'est critique. Mais bon, je suis sauvé par mon t-shirt Radio Saint-Taf.
Et pourquoi ?
Alors, en faisant du stop... Un autre mec tend le pouce et m'accoste. Tu es de Saint-Taf ? Je fais bah ouais. On fait le compte des potes qu'on a en commun et on va se boire un coup en parlant du pays. Il vient d'acheter un bateau et me présente son mécano qui me file des petits tafs. Ça paye les bières et un peu d'huile pour le riz, car pour le beurre, faut pas y penser. Ici, c'est 35 le jour et 30 la nuit. Bref, je respire un peu après quasi un mois de vache maigre. On devient bien pote avec Greg, on va pêcher au fusil harpon et on se mange des beaux poissons et de belles langoustes à l'occasion. On fait un peu de balade en bateau et puis je le laisse partir vers le sud. Moi, je trouve un boulot pour un mec qui a un camion pizza. J'y nettoie la boutique et j'y prépare le camion tous les matins, sauf le lundi, mon putain de jour de repos. J'ai mon bateau marin, c'est une petite ville dans le sud de la Martinique où des centaines de bateaux sont à l'ancre et la plupart habités. Au bout de 3 mois, j'arrête le boulot. Travailler sous les tropiques, c'est vraiment une aberration, et surtout quand ton patron est un con. Je fais encore quelques extras dans une pizzeria avec une équipe sympa et je rencontre un Espagnol. Il jongle et me dit qu'il fait les feux rouges à Fort-de-France. Adrian... c'est son nom, vient habiter avec moi sur le bateau. Après 3 mois de solitude à bord, ça fait du bien d'avoir un coloc, même si le bateau n'est pas bien grand. Donc, je vais vous raconter une de nos journées. Donc, on se lève à 6h du mat. Hein. Oui, bon, je sais, c'est pas coutume, mais on s'y fait, on se fait à tout. Hein. Donc, après un bon café, une petite clope, on met le sac sur le dos, les massues bien arrimées, et on va à Fort-de-France, à 30 bornes, soit en taxi collectif, soit avec mes copines anesthésistes de l'hôpital. Et oui, les anesthésistes nous amenaient à Fort-de-France pour qu'on fasse la manche. Donc, elle nous dépose à la station Total, on se chope 2 bouteilles de flotte, parce que vu la chaleur, il y a intérêt à s'hydrater, un petit café histoire de finir de se décoller les yeux, une chocolatine, et on va au carrefour entre le McDo, la station, le Leclerc et le Tati. Et oui! Donc, moi, je prends l'avenue Anselmo Aguilar et Adrian, il prend le carrefour Adrian Fernandez, que l'on a renommé à nos noms, hein, bien évidemment. Donc on jongle au feu rouge de 8h à midi. Après il fait trop chaud et 4h en plein cagnard dans les pots d'échappement, c'est amplement suffisant. Tout le monde donne. Les pauvres, les riches, les blancs, les noirs, le taxi, l'ambulance, les pompiers, le bus, le camion poubelle et même les militaires. Bref, on se fait entre 70 et 100 balles en 4 heures, donc ça va. Et puis après, on prend le bus pour aller en ville. On se boit une petite canette en terrasse chez le chinois, en attendant que les gars nous ramènent quelques bêtes. On s'en fait un ou deux en terrasse et on va manger soit chez le chinois, soit on va chez les Rasta, parce qu'à force, la bouffe chinoise, ça nous file les indigestions. Donc vers 14h, on attend que le taxi collectif se remplisse et on nous dépose à la plage. On termine la journée à l'ombre, à siroter des bières, à fumer des pêtes. On se trempe de temps à autre dans l'eau turquoise de l'anse figuier et on laisse dériver nos yeux sur les formes généreuses des créoles métissées. Voilà le paradis, quoi. Avec le recul, je me demande bien pourquoi je suis pas resté à Langui sur une plage des Caraïbes jusqu'à la fin des temps. Mais j'ai vendu le chag-chag et je me suis pris un billet d'avion pour retrouver vos sales gueules. Non, ne me demandez pas pourquoi. Des questions dans la vie comme ça resteront sans réponse. Donc je passe juste le bonjour à tous les copains de la Martinique, Greg, Émilie, Oli, Max et Blandine, Greg,
salut,
salut Sandrine, Benji et tous les autres. Portez-vous bien, que le vent souffle dans vos voiles. Voilà, c'était un beau voyage, comme un rêve. Je me demande des fois si tout ça était bien réel. Le réveil est un peu difficile, j'avoue. Mais la vie continue. Vivez vos rêves, car je vais vous confier un secret. Tout est possible. Ciao.
Oh, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, oh, les voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images. Car les voyages, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages. Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous chante comment la vie vaut bien le coup malgré tout. Jeunes gens, sachez profiter de vos 20 ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera. Les voyages qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvre au bonheur, mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits. Les voyages, tourne une page, oh les voyages,
mais Merci Momo, nous venons d'écouter Barbara et
c'est bien fait... pété l'ambiance.
Ah carrément là.
Non,
ça fait endormi tout le monde.
Tu déconnes, ça fait plaisir d'entendre la suite de cette aventure.
Mais grave, avec un angle un peu plus léger et tout, ça fait vraiment plaisir. Merci pour ce récit.
Ouais, avec plaisir les amis.
Bon, eh bien, on va enchaîner avec... comme promis à nos fidèles admiratrices qui nous couvrent la rédaction de Lettres d'amour, je laisserai donc la place à Antoine.
Salut.
Montre-nous que tu n'as rien perdu de ta superbe.
J'ai un générique pour faire ça.
Moi, j'ai pas de petit générique. Moi, j'ai...
Vous écoutez toujours au cul de l'église, en direct depuis les studios de Radio Sainte-Afrique.
Bienvenue dans cette émission.
Tu veux bien nous en dire un peu plus ? Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans ce foutoir, histoire de rendre le tout audible pour vous.
Tu es au crochet de la société ?
Tu demandes aux gens qui sont dans la vie active, dans la vraie vie, de sponsoriser tes vacances. Et ça, c'est pas juste.
Mmh. Tu sais que les gens comme toi sont le cancer de la société. Hein.
Enfin, là, t'exagères quand même.
Je suis dur, mais c'est vrai. Et comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du soleil ? Vous êtes content qu'il y en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi ?
Salut Shams, salut à tous. Bon voilà, moi ce soir je vais plutôt utiliser des petits sons et laisser les autres défendre, comment t'as dit, la superbe. Du coup ça va être une présentation d'un format qui s'appelle Data Gueule, c'est une émission de télévision et une web-série hebdomadaire diffusée sur France 4 et sur Internet. Le format existe depuis juin 2014 et propose des vidéos d'animation traitant de l'actualité sur un monde ludique. Sur un mode ludique, pardon, et condensé dans un but didactique. C'est hyper rythmé et plein d'incrustations, design type After Effects pour les geeks. Historiquement, si l'on peut dire, chaque épisode dure environ 3 minutes et tente de révéler et décrypter les mécanismes de la société et leurs aspects méconnus, en s'appuyant en général sur des kilomètres de chiffres, des chiffres que l'on peut voir mis en relation de manière à apporter un regard nouveau sur une thématique en général assez précise. Plus récemment, ils ont changé de format pour une version plus longue, entre 10 minutes et un quart d'heure. Donc ça fait une intro de quelques minutes, montage graphique et explicatrix là, sur le principe de leur format d'origine, puis une interview avec un invité concerné par la question. Et en bout de voix off à la fin, revenir un peu de manière plus générale sur le sujet. Alors on s'est tous dit « Cool, on va pouvoir regarder Data Gueule même fatigué ». Et en fait, non. Il vaut mieux quand même être réveillé, le format reste dense, vous allez voir. Petite parenthèse, je recommande tout particulièrement à la populace sud-aveyronnaise de visionner le 69e épisode des Data Gueule, j'ai pas fait exprès.
Ouais, c'est ça.
Qui traite de l'agriculture intensive. Il est vraiment délire et il cite un peu des réseaux que vous connaissez, des associations que vous connaissez. Enfin, et cela m'amène à la raison de mon intervention spécialement ce soir, ils ont aussi produit des documentaires type 90 minutes, type format film. Le premier, c'était 2 degrés avant la fin du monde, qui a été publié quelques semaines avant la COP21, fin 2015. Et il y en a un autre, c'est La démocratie n'est pas un rendez-vous. Il est actuellement en cours de réalisation, même de finalisation, on peut dire, ça devrait plus tarder. J'en profite donc. Enfin, donc voilà, l'idée c'était de vous dire, tiens, il y a ce film qui arrive de ce collectif, chaîne.
J'étais un peu perdu.
Qui s'appelle Data Gueule et que j'ai essayé de vous dépeindre un petit peu dans ces précédents paragraphes. Du coup, voilà, je voulais en. Oh le mec. Ah, mais c'est l'autre, tu me mets la pression.
Ah, mais je croyais plomber l'ambiance, mais là, il y a du level.
Voilà, du coup, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre en vous proposant un petit extrait. C'est une interview parue il y a quelques jours. Donc, sur la chaîne YouTube Data Gueule, vous comprenez le jeu de mots. Une interview de Alain Deneau, directeur des programmes au Collège international de philosophie, qui nous parle des multinationales. Accrochez-vous un peu, car le rythme et le design sonore, c'est un peu too much, mais le contenu est délectable.
Les multinationales sont devenues des pouvoirs, et c'est à tort qu'on voit en elles strictement des entreprises ou des sociétés. Vous avez, pour le capital, après la Deuxième Guerre mondiale, un éventail de législations ultra-permissives qui permettent de tricher à la carte dès lors qu'on est capable de déployer ses activités à l'échelle internationale et donc de s'imposer comme multinationale, c'est-à-dire d'avoir un réseau d'entités dans de nombreux pays. Dès lors qu'un chef d'entreprise ou qu'un gestionnaire dans une multinationale a pour dessein de commettre quelque chose qui serait illégal chez soi, il n'y a qu'à créer une entité ou à mobiliser une entité qui est créée ailleurs dans le monde pour avoir accès, au fond, à une légalisation de ce qui serait chez soi un méfait. Qu'est-ce qu'ont fait les États traditionnels quand ils se sont trouvés confrontés aux politiques ultra-permissives? On a décidé de les imiter sous le prétexte d'être en concurrence avec eux plutôt que de chercher à les contrer. Aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Allemagne, on va dire ben, nous sommes dans un univers de concurrence et nous faisons face à des pays qui ont des lois plus permissives que les nôtres et qui sont donc plus avantageux que les nôtres en ce qui concerne le fisc. Alors nous allons rivaliser, nous allons réduire le taux d'imposition des entreprises de X% à X%, et donc depuis des décennies, tous les taux sont revus à la baisse en ce qui concerne le revenu des entreprises, parce qu'il faut concurrencer. Bon. Alors que on pourrait très bien, sur un plan diplomatique, dire à ces pays que sont le Panama, les Bahamas, les îles Turques et Caïques, Trinité et Tobago, l'île Jersey, le Liechtenstein, et ainsi de suite, dire « Nous contestons telle ou telle ou telle loi parce qu'elle consiste pour vous à légiférer sur la façon dont le capital sera administré partout dans le monde sauf chez vous. » C'est comme si la main invisible d'Adam Smith, là, avec ses ongles, là, était parvenue en quelque sorte à ouvrir les interstices entre les États pour créer cette espèce de zone tampon anomique où il y a la moitié des transactions financières internationales qui ont lieu. Une société comme Total, qui est strictement un exemple, hein, on pourrait citer Amazon, Starbucks, Monsanto, Boeing, Goldman Sachs, va plaider trois choses. Ce qu'on fait est légal, on ne fait pas de politique, le passé appartient au passé. Et avec ça, on a raison tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est légal lorsque des critiques et des allégations dans le monde portent sur des affaires de travail forcé, de pollution massive, d'atteinte à la santé publique, de financement de partis belligérantes dans un conflit, d'endettement odieux. On estime, d'une manière partagée, hein, que cela contrevient à des règles élémentaires de vie en société, et en même temps, le droit l'autorise. Donc il y a un clivage entre, on pourrait dire, la morale et le droit. Là, on dirait, nous, on ne fait pas de politique. Sous-entendu, la politique, c'est l'affaire des minables. C'est l'affaire de la plèbe qui s'entretripe pour savoir qui portera la couronne, nous, ça ne nous intéresse pas. Entre-égorgez-vous, puis le jour où vous aurez choisi l'heureux élu, nous, on saura exactement comment encadrer cette personne-là pour que, de toute façon, elle n'ait pas le choix de se conformer à un ordre mondial qui est celui qui nous intéresse. La distinction est de moins en moins grande entre les États traditionnels et les paradis fiscaux. Et c'est ainsi qu'il fallait comprendre la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy en 2009 à Pittsburgh, à l'occasion d'un G20, quand il avait dit « Avec moi, les paradis fiscaux, vous allez voir, c'est terminé. » Comme souvent, la parole idéologique nous dit quelque chose. Parce que ce que nous disait Nicolas Sarkozy en 2009 à Pittsburgh, c'était dire « On va polisser les paradis fiscaux et on va adapter notre réglementation fiscale de façon à ce qu'on ne voit plus la différence. » La loi qui intéresse les multinationales est une loi de type sadique. C'est la loi du marché, c'est la loi du commerce, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est la loi de la mondialisation, c'est la loi du commerce sans entrave, qu'on va présenter comme étant ce qui relève d'une sorte d'anthropologie fondamentale. Et on a beau jeu ensuite de mettre sous pression les États qui ne se conforment pas à ces règles du jeu, au prétexte sinon de s'assurer qu'elles perdent, en présentant la perspective de cette dérive qui sera la leur comme étant un fait strict de l'histoire. Comment une multinationale exerce et manifeste son pouvoir? De multiples façons. D'abord, sur un plan diplomatique, en ayant une représentation diplomatique qui pèse beaucoup plus que celle de n'importe quel État. Ensuite, vous avez le lobbying. Le lobbying consiste à mettre sous pression la société elle-même, les gens. Des pressions qui visent à créer un climat social favorable à une certaine décision publique et à une certaine orientation politique. Et cela passe évidemment par un grand nombre de manifestations qui vont du financement d'une université au financement d'un voyage au bénéfice d'un média ou d'un journaliste. À défaut d'une estime, au moins s'assure de l'autocensure générale. Qu'est-ce qui reste ensuite? Bien entendu, les menaces. Financer un camp adverse, exiger le départ d'un ministre. Donc on est face à des pouvoirs qui s'exercent sur un mode nouveau, spécifique, souvent pervers, difficile à cerner, en même temps qu'il est bien réel et qu'il est même le problème du 21e siècle.
Hey! Put the knife down! Put the knife down! Put the knife down!
To the police, yes. We're waiting to hear more about what led to a deadly shooting in the busy part of downtown Seattle tonight. We know a man was shot and killed near the intersection of Bourne Avenue and Howard Street. We also know it was a Seattle police officer who pulled the trigger. John Hopperstead picks it up from there.
Seattle police are investigating whether the shooting of wood carver John C. Williams was justified. But in the minds of those who led a memorial tonight at the place he died, it's clear what happened.
Voilà, c'était Alain Deneau pour le dernier Data Gueule au sujet des multinationales. Et je continue sur une lancée rythmée avec un son produit par Mr. Modo et Ugly McBear, deux beatmakers, comprenez les fabricants de beats de rap donc, qui ont œuvré dans les années 90-2000 en France et à Londres, un peu pour Ugly McBear. Sur le vinyle Mo Dougli World Stories, les histoires bizarres de Mo et McBear, on trouve en quatrième piste un essai de son, parce que c'est pas vraiment non plus une musique, qui raconte l'histoire d'une TV-réalité, une fiction, mis en son donc par les fous du son, donc c'est un peu, faut être accroché aussi. Cette piste, je l'ai jamais trouvée sur le web, c'est pour ça que je voulais la passer à la radio. Alors y a-t-il un rapport avec le contenu dans le fait qu'on la trouve pas sur le web? Allez savoir, mais voilà. On écoute ensemble, accrochez-vous.
C'est parti.
Nous vivons dans un monde de dingue et le prix du danger est exactement l'émission dingue que réclamait ce monde de dingue. Ni vous ni moi ne sommes responsables du monde dans lequel nous vivons.
Ils vont descendre du ciel, ou plutôt de l'enfer.
Ceux qui, dans quelques instants, vont se lancer
à la poursuite de François Jacquemart.
Pourquoi? Quelle a été la motivation pour laquelle vous avez accepté de vouloir tuer notre ami devant nos caméras?
Je suis obligé de répondre.
Absolument pas, vous êtes absolument libre de garder secrète vos motivations.
Et remarquez, quelquefois, j'ai pas honte, quelquefois je sors dans la rue avec mon pistolet dans la poche comme ça, je marche, et je me dis que le premier qui me chercherait, je le crève à bout portant.
Moi, c'est pareil. Presque toutes les nuits, je rêve que je tue quelqu'un avec un couteau. Remarquez, je le ferai jamais à cause de la prison.
Et puis, comme vous donnez de l'argent pour ça, on aurait tort de pas essayer.
Ben oui. 2500, chers amis, chers téléspectateurs, ils étaient 2500 personnes à vouloir poser leur candidature pour être les tueurs du prix du danger. Des personnes comme vous et moi, qui n'ont jamais tué personne, mais qui en meurent d'envie. Donc, aucun doute, pas de pitié. Vous êtes bien décidé à tuer François Jacquemart.
Ah oui.
Non, mais rien ne pourra vous attendre rire.
Non, sinon, non.
Pourquoi on serait venu sinon? On est là pour quoi?
Merveilleux! Ils sont merveilleux! On les a conduits à l'heure.
La violence, le respect humain, il faut savoir être au-dessus de tout ça. La seule chose qui compte pour nous, c'est de faire de l'argent, quoi, c'est tout.
Les concurrents ne participent pas à l'émission dans l'intention de mourir, mais bien au contraire, dans l'espoir de survivre afin de toucher une prime substantielle.
Nos candidats, ils sont tous volontaires, signent avant l'émission un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils acceptent d'être tués.
Et voilà,
L'hélicoptère qui s'envole et va déposer François sur la plus haute tour de la ville, à 2 km d'ici. De cette tour, François devra, par ses propres moyens, rejoindre un endroit connu par lui seul, dans un délai de 4 heures, temps imparti à notre émission. François réussira-t-il cet exploit avec la meute de nos chasseurs lancés à sa poursuite? Ces chasseurs galvanisés par la prime qui les attend. Attention, dès qu'il aura mis le pied sur la tour, vous pourrez partir. Il a le pied sur la tour, partez!
Écartez-vous, bande de cons!
Découvert par les assurances.
Mais qu'est-ce que vous croyez, bon Dieu? On a 200 millions de téléspectateurs ce soir. Faut bien vous aider à durer le plus longtemps possible.
Ça veut dire quoi, le plus longtemps possible?
4 heures, le temps de l'émission.
Le temps de vendre toutes vos saloperies de pub, c'est ça? Et des bons samaritains dans votre genre, je vais en rencontrer à chaque fois que ça ira mal.
Ouais.
Ce qui revient à dire que cette émission est plus tard!
Oui!
Et dans le dernier quart d'heure, les heures vont descendre comme dans les autres émissions. Ce qui vous évite de me payer.
Le problème, c'est qu'avec moi, vous êtes très mal tombé. Allez dire à vos amis de la CTV que mon chèque, je vais le toucher.
Mais comment, mon Dieu? Mais si je vous dis, vous allez crever!
Non! Je veux pas crever, je suis pas là pour crever!
Vous trichez, vous respectez pas les règles. Alors moi je vais continuer le jeu, mais avec des règles à moi.
Et vous allez voir, ils vont pas être déçus, vos 200 millions de spectateurs! C'est moi qui vais gagner le jeu! C'est moi!
Ça m'intéresse avant tout que le prix du danger continue. Et les gens nous regardent aussi longtemps que les candidats se font massacrer. Si là de gagner, personne ne peut dire exactement ce qui arriverait.
C'est inadmissible, vous ne m'avez pas écouté. Vous avez triché. Pire, vous avez tué 4 hommes. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, je ne sais plus si François est un criminel ou un héros. Si la CTV doit le féliciter pour avoir gagné ou le disqualifier pour avoir triché.
Yeah. Et ben voilà, c'était Mister Modo et Glee McBeer sur un format vinyle qu'on est très content de découvrir, de rien, voilà, ouais, c'est un peu trash, c'est un peu hardcore, mais bon, ça fait plaisir d'entendre ça dans un album de rap des années 2000 du coup.
C'est un peu sanglant, effectivement.
Tout juste 2000, non, mais c'était même avant, tu disais pas...
Ouais, non, en fait, j'ai regardé tout à l'heure, je me suis trompé, c'est juste après 2000, et du coup, voilà, c'est un peu l'époque, enfin, la télé-réalité arrive à peine, en fait, en Europe, et donc voilà, bon, sans le côté spécialement, pour dire que c'est des grands précurseurs, mais en tout cas, je veux dire, qu'on le trouve plus, enfin, voilà, c'est un point de vue qui est radical, clairement, et cette piste, on a du mal à la trouver, ça m'a interpellé, et je trouve que le contenu, il est questionnant, quoi.
Exclusivement pour vous et vous, auditeurs et auditrices de Radio Saint-Afrique.
La télé-réalité du futur.
Voilà, merci à tous.
Tout de long, eh bien, merci Toine pour ton intervention.
Avec plaisir.
Le champion suivant entre dans l'arène. Et oui, je le vois qui empoigne son texte d'une telle force que même les lettres se détachent de la feuille. Le technicien réussit toutefois à lancer à temps le générique de Yves avant qu'il ne s'autodétruise.
C'est un problème.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis ?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein ?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois ?
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, je suis juste venu vous lire une petite citation du Dalai Lama. Donc, ça s'appelle
c'est
les.
Qui le Dalai Lama?
Le Dalai Lama, le.
Ama comme la terre.
Bref, le gars du Tibet, tu vois, l'élite religieuse.
C'est le mec avec la robe jaune,
le skin, là.
Le skinhead avec la robe jaune.
Bref, enfin voilà. Donc, c'est les paradoxes de notre temps. Nous avons plus de grandes maisons, mais plus de petites familles. Plus de commodités, mais moins de temps. Nous avons plus de diplômes, mais moins de sens. Plus de connaissances, mais moins de jugements. Plus d'experts, mais plus de problèmes. Plus de médecins, mais une moins bonne santé. Nous avons fait plusieurs allers-retours sur la Lune, mais nous avons du mal à traverser la rue pour rencontrer nos voisins. Nous construisons toujours plus d'ordinateurs qui contiennent plus d'informations et capables de fournir plus de copies que jamais, mais nous avons moins de communication.
Nous avons plus de quantité, mais moins de qualité. C'est le temps de la restauration rapide et de la digestion lente. Des grands hommes à petite personnalité, des profits excessifs et des relations superficielles. C'est une époque où il y a tout dans les fenêtres, mais rien dans la pièce. Voilà, juste une petite citation pour le jour, et je vous laisse...
Citation du jour, bonjour.
Avec un petit son.
Dalaï 2. We'll be right back.
vous êtes toujours au cul du monastère bouddhiste et merci Yves d'avoir ouvert tous nos chakras. Je pense qu'on devrait l'inviter, ce Dalai Lama, un peu qui répond de tout ce qu'il raconte.
Ouais, parce qu'il dit un peu de
conneries.
Mais à ce qui
paraît, il a un peu abandonné son poste. Je sais pas, c'est chelou comme histoire. Mais
pourquoi, ça,
c'est ce qu'on m'a dit, mais que.
Ça voilà, rapportait plus assez.
Ouais, faut croire. Ouais.
Enfin bon, j'hallucine toujours de voir ces gens qui marchent pieds nus et qui roulent dans des BM filer des citations aussi empreintes de sagesse. C'est merveilleux.
Trop cool.
Mais bon, je ne suis point ici pour juger, car Adeline trépigne d'impatience et comme j'ai peu de mots à répondre envers ceux qui déterrent des cadavres le week-end pour voilà pour loisir, je me vois obligé de lui céder la place.
Enlevez-lui le micro.
Restement.
Tu vas trop loin. Tu viens de tracher le Dalai Lama en direct là. What?
Allez, générique.
Je n'y arriverai jamais quand même. J'ai cassé le disque.
No, God, please, no.
Oui, tu as raison, parce que finalement, ça n'est pas très grave, parce que quand même, j'ai encore d'autres biscottes.
Tu les catholiques. Qui a dit quoi? Personne n'a rien dit. Catholica.
Aline.
Merci. Alors, salut à toutes et à tous.
Salut.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous concerne tous.
Wow, ouais.
Dès lors que vous avez un permis de conduire et parfois des choses à vous reprocher quand vous êtes derrière le volant, mais je veux pas savoir ce que vous faites. Hein. Donc j'ai moi-même eu quelques déboires de ce côté-là, ce qui m'a valu un paquet de déconvenues. J'ai maintenant quasi écopé ma peine de suspension et c'est pour moi l'heure de montrer à l'État et au corps médical que je suis quelqu'un de bien, de responsable. Donc pour ça, rien de plus simple, tu prends deux médecins blasés, dont un avec la chemise à moitié ouverte avec les poils là qui font bonjour.
Waouh.
Et qui te demande, vous pesez combien? Vous arrivez à lire les lettres là? Et vous avez aimé le dernier livre de McLevy? Non? Parfait! Vous êtes apte à conduire! Donc on pense que ça s'arrête là, mais pas du tout, c'est pas fini. Donc ce matin, j'ai dû me rendre à des tests psychotechniques. Alors j'imaginais un truc de ouf, genre électrode sur la tête, cours sur un tapis roulant, enfin l'occasion rêvée quoi de montrer à la face du monde le meilleur de ma personne. Mais non, personne n'a lu dans mon esprit. La psychologue m'a d'abord placé devant un fossile d'ordinateur sur lequel étaient branchés deux joysticks, eux, fossiles de Mega Drive. Alors là, ça devient super amusant. T'as deux petites routes sur lesquelles roulent deux petites voitures et toi, tu dois faire attention à ce que les petites voitures, elles restent sur la route. Et franchement, niveau jeu, c'est des sensations de ouf, des graphismes à couper le souffle. Enfin, je pense que c'est sans doute le fruit des amours entre un Minitel et Windows 95. Enfin. Et c'est pas fini. Après, tu dois faire une spirale à petits points rouges, appuyer sur une pédale quand t'entends une voiture qui fait tutut. Enfin, en gros, même une taupe sous kétamine, elle s'en sort à l'aise, quoi. Donc là, c'est le moment de l'entretien où tu laisses tomber le sourire politiquement correct et où t'affiches ostensiblement qu'il faudrait peut-être arrêter de te prendre pour une truite. D'autant que la psychologue s'en tape le cul avec une babouche et que tu pourrais bien être un Émile Louis en puissance devant sa gueule, elle en saurait rien vu qu'elle est vissée à son smartphone. Donc, t'as l'impression d'avoir touché le fond, et puis c'est là qu'elle intervient, la psychologue. Elle te donne la pelle pour creuser encore plus, avec le jeu des cubes, et ça c'est trop rigolo. Alors, tu dois faire le plus de formes possible en un temps record. Trop de suspense et trop d'action à ce moment-là. J'étais un peu comme dans Fort Boyard, sauf que Philindra tête de tigre, et bah c'était une psy pas funky, non pas en peau de panthère, mais en peau de quarantenaire Ikea Bourges. Bon. Donc là, c'est le moment où mon énorme ego en a pris un coup. Je me suis dit, c'est super, j'ai bien fait, il y a 6 ans de fac pour en arriver là. D'autant qu'elle ponctuait toutes ses actions d'un « ça va, vous avez compris ?» Bah non, connasse, j'étais trop occupée à mater tes putains de boucles d'oreilles qui doivent valoir mon salaire. Et à la fin, elle a quand même levé le nez de son smartphone pour me dire tout sourire « bon bah ça fera 90 euros ». Donc oui, l'humiliation a un prix, et à ce prix-là, j'ai failli me barrer avec son putain de ficus en plastique. Et je suis vénère, donc on va écouter de la musique vénère, c'est House Rocks et le morceau « Hell ».
We zijn op zoek naar hel. Hel. Oh, dat begint daar.
Merci Adeline. Bon, ben, je crois que si la psychologue en question t'a écouté, il y a peu de chances que tu le réobtiennes. Mais c'est pas grave, c'est avec brio que tu remontes dans les sondages. En effet, nous constatons une hausse formidable du cours RSA dans le CAC 40. La médiamétrie annonce donc plus de 30% d'audimat. Et l'on peut considérer que ce chiffre sera stable, car ce soir, en exclusivité pour vous, Saint-Africain, Saint-Africaine, nous allons découvrir une espèce peu commune. Un Clémentus diffusibus, le seul être du monde animal, être dépendant des ondes. Nous l'écoutons.
C'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Vas-y, gollerie, non mais quoi, tu... Moi, j'en ai plein de cul, super, ce putain de système, tous les jours, comme un connard. On est là, on vit dans les trois rats comme des merdes et quoi? Qu'est-ce que tu fais, quelque chose, toi, pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul, toi, non plus. I woke
up in a car. Mais quoi? Elle-mère! Elle-mère! Les sapés en mer, tu les I was a prisoner.
C'est fini, on t'en plus l'autre jour.
Et oui, ce soir, donc comme tu l'as annoncé en début d'émission, cher Shams, je vais vous parler du charmant de la petite ville, disons, on va pas l'appeler, c'est un village quand même, de Calais. Calais, petite ville du nord de la France, dans le département
du
Pas-de-Calais. Et donc cette ville est bien connue, évidemment, puisque c'est la ville la plus proche de l'Angleterre, avec son joli port et son tunnel construit en 1994, n'est-ce pas? Et donc tunnel qui a forcément attisé un petit peu les regards, puisque dès 99, il y avait quelques personnes qui se sont dit, bah, on aimerait bien le prendre nous aussi pour aller en Angleterre, à ce qui paraît, on peut y vivre un petit peu mieux quand on est étranger là-bas. Donc à partir de 99, la Croix-Rouge a ouvert un centre qui s'appelait le centre de Sangat, qui accueillait les gens qui étaient en attente d'essayer de traverser, jusqu'en 2002 où Sarkozy, ce cher Sarkozy, est arrivé à l'intérieur et donc les a virés manu militari. Depuis ce moment-là, bah, les gens du coup ont commencé à se rassembler ailleurs que dans un centre construit par la Croix-Rouge et donc ont construit leur propre bidonville sur la côte calaisienne. La jungle, comme on l'appelle, voilà, on en a pas mal parlé.
Il n'y a pas de singe d'ailleurs.
On en parle plus beaucoup parce que bah, je vais justement, on va y venir, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans cette jungle. Je vais aller très rapidement jusqu'en 2012. En fait, pendant tout ce temps-là, il y a des gens qui restent là, il n'y a pas trop de soucis, en tout cas, on en parle peu, ils sont pas si nombreux que ça, genre moins de 1000 personnes tout du long. C'est que à partir de 2012 où il a commencé à avoir beaucoup plus de monde, notamment dû à des guerres et des personnes qui fuyaient la guerre, et aussi dû au fait que les législations européennes se durcissaient pour les sans-papiers, donc du coup l'objectif anglais était de plus en plus important. Fin 2015, l'État français commence à en avoir plein le cul de voir des Noirs et des Arabes sur le long de ces plages. Du coup, ils se disent qu'ils vont essayer de virer tout le monde et ils s'y prennent de plusieurs manières. Donc avec la force, avec des keufs et des expulsions, avec notamment la location, l'affrétion. Ils affrètent un avion exprès pour expulser les gens depuis Calais. Et puis aussi avec des transports directement en bus vers les centres de rétention administrative français. C'est grosso modo des prisons pour étrangers en attendant qu'ils se fassent virer alors qu'ils n'ont juste pas de papier. Donc ça, c'est aux alentours de fin 2015. Il y a un petit peu deux côtés. On leur promet qu'ils vont être accueillis ailleurs, sur le territoire français ailleurs, et en fait, ils finissent en centre de rétention. Et il y a aussi un petit espace qui est aménagé dans la jungle avec des algécos, genre truc un peu crado, où il faut donner ses empreintes à l'entrée pour pouvoir en profiter. Mais du coup, c'est quand même l'État français qui leur propose un logement. C'est quand même génial. Début 2016, il y en a vraiment marre, parce qu'en fait, là, il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde dans cette jungle. Il y a à peu près 5000 personnes, donc ça va quand même assez vite, hein. C'est en un an ou deux, c'est passé de 1000, 1500 à 5000 personnes. Début 2016, premier démantèlement partiel de la zone sud, donc de la jungle, ordonné par le tribunal administratif de Lille, et donc ils virent toute une partie de cette jungle, ils la démolissent, et tout le monde se retrouve dans la partie nord de la jungle, donc à peu près 6-7000 personnes à l'été 2016, donc quand même 2000 mineurs, quoi. Ça fait quand même un petit peu de monde. Et puis octobre 2016, la gauche qui est au pouvoir hein, décide d'évacuer complètement cette jungle. Mais donc du coup, ils défoncent tout, ils brûlent tout, etc. Les migrants sont par contre toujours là, forcément, et donc ils reconstruisent d'autres camps aux alentours, notamment à Grande-Synthe où il y a jusqu'à 2000 personnes, à Calais, des plus petits camps un peu à droite à gauche et aux alentours de Calais. Alors vous imaginez un petit peu l'ambiance qui peut régner dans une ville où il se passe des trucs comme ça, avec des militaires de partout, des CRS de partout, des murs anti-migrants construits sur les deniers de la Grande-Bretagne qui construisent le mur à Calais pour une somme de 2,7 millions d'euros.
Payé donc ça, par c'était... la France.
Non, payé par la Grande-Bretagne,
ouais,
en France.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà. Ça, c'était en septembre 2016. Et puis la constitution de pas mal de groupes racistes, fascistes, et tous les adjectifs finissant en "-iste", pourraient pas mal les dénominer. Et puis aussi des campements donc saccagés, donc on sait pas trop si c'est par des keufs, par des civils fascistes, des milices, etc. On retrouve également du gaz au poivre dans la nourriture qui est distribuée aux migrants. Bref, je passe des saloperies et des meilleurs. Et évidemment, dans cette ville règnent en permanence des compagnies de CRS devenues des quatre coins de la France, qui sont là pour la sécurité nationale, bien sûr.
Casque sur la tête, visière baissée, bouclier, matraque en main, telles sont les images que l'on retient habituellement de ces hommes des compagnies républicaines de sécurité. Des fonctionnaires de police destinés à la bagarre de rue dès que des manifestations ou des troubles éclatent sur le territoire national.
Bien, alors les individus se trouvent ici, dans la ferme, elle est isolée. Nous, on va procéder à l'isolement de la zone et à sa neutralisation.
Feu. Vous êtes encerclés. Vous êtes encerclés. Rendez-vous.
Voilà, les compagnies républicaines de sécurité, on les aime tant. Ça, c'était une archive de l'INA. Franchement, c'est pépite. Alors, pourquoi je parle de la jungle de Calais et de ses CRS ? Petite histoire drôle, franchement c'est croustillant au possible. Donc là, j'ai fait une partie un peu glauque hein, de la chronique, là maintenant c'est parti, on peut se lâcher. Donc vendredi dernier, c'est parti. Vendredi dernier, donc c'était il y a 5-6 jours, dans une boîte de nuit de Calais, la compagnie 58 des CRS de Perpignan se la colle grave. 15 CRS en civil, gros stuff, c'est la fête à Calais, quoi. Donc les CRS se lâchent, c'est le soir, le taf est fini. Et ces 15 CRS un peu teubés, bon, en même temps c'est des CRS, pléonasme, j'ai envie de dire, agressent un groupe de fêtards. Un petit groupe de jeunes qui traînent dans la boîte. Donc ça commence à partir en baston et tout. Le groupe de fêtards commence à flipper un petit peu et ils appellent la police. Allô la police, on est en train de se faire agresser par des gens dans la boîte de nuit. Manu Militari, la bague de Calais, bague charmante d'ailleurs, par ailleurs, débarque et là, ça part en baston entre la bague et la CRS. Quoi.
Oh, voilà, yeah. Donc,
un CRS quand même réussit à voler la matraque d'un baqueux. Selon des témoins, un CRS dit à un baqueux: bah maintenant, quand vous aurez des problèmes avec les migrants, on viendra pas vous sauver, on n'entendra pas la radio. Tiens, chais, dans ta gueule. Voilà. Et un CRS finit quand même en garde à vue, en cellule de dégrisement. C'est quand même assez mythique, quoi.
Ah oui, alors...
Merci la compagnie 58 de Perpignan. Si vous nous entendez, franchement, vous nous faites rêver. D'ailleurs, ils s'étaient quand même fait remarquer il y a quelques mois parce qu'ils avaient embouti la caisse du capitaine du commissariat en sortant de boîte.
Oh, merde.
Et ils s'étaient enfuis sans rien dire, les gars. Tranquille.
Yeah.
Quoi.
Ah, bon, voilà. Vous êtes trop fort.
L'info date du Canard Enchaîné d'hier. Franchement, c'est tellement croustillant, ça fait tellement plaisir. On s'écoute un petit son qui vient d'une radio qui a été montée sur la jungle de Calais il y a 2 ans à peu près.
انا يا غرامي وصلت بيك في الدنيا ليه حد الغرام ولقيت ملامي على عينيك يا سيدي زي الماما لام يا سلام عليك يا سلام الوردة لو فات الفراش ما زين تلومه مع الندى وما بتجرح إحساسه الجميل والريدة يا حنين كده والريدة يا حنين كده والوردة لو خان الفراش ما زين تلومه مع الندى وما بتجرح إحساسه الجميل والريدة يا حنين كده لو منه مستني الملام يا سلام عليك يا سلام يا حلو دستي كوت مرات كلام وعدم الملام هو كمان ملام يا سلام عليك يا سلام.
Yep, Jungle à la radio que vous pouvez retrouver sur il y avait un Facebook, un SoundCloud aussi, ça s'écrit Jungle là comme ça se prononce. Et voilà.
Eh bien, fabuleux, c'était Clément Tibus à l'antenne, encore une découverte qui changera le monde. Mais en tout cas, merci de nous faire part de ces dernières nouvelles du monde qui me réchauffent le cœur, je sais pas vous, mais en tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'enfin les Bleus se foutent sur la gueule entre eux.
Ouais, ça c'est cool. Ouais.
Ça fait moins de coups pour nous, et ça nous fait bien rire.
Après, franchement,
la site... J'aime la 58e compagnie.
Okay. Après, voilà, faut penser quand même, il y a toujours autant de gens qui galèrent en fait sur cette côte, et en fait, ça ne tient qu'à des décisions politique à la con, genre juste d'ouvrir une frontière en fait, comme toutes les autres frontières sont ouvertes en Europe. Là en fait, il y a des milliers de gens qui tapent des épidémies à n'en plus pouvoir, qui se font gazer à tour de rôle, enfin voilà, à tour de bras. Et en fait, c'est juste de la décision politique, quoi. Ça ne tient qu'à ça, quoi. Et
ils sont à la merci de la mafia aussi, parce que du coup, c'est des gens qui n'ont aucun droit, qui se retrouvent là à passer et... seul moyen pour passer en Angleterre, c'est de payer des passeurs qui sont... Et tout va bien.
Après, ce qui est hyper habile, je trouve, c'est qu'en fait, ça entretient une haine quoi du migrant quoi, tu vois, enfin une peur, une haine et en fait un degré de racisme qui
et une montée du facho.
Bien, ouais, voilà, c'est vraiment ça quoi.
C'est, ça prend des capteurs biométriques aussi. Ouais. C'est un business.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Business.
Ça construit des futurs camps de concentration pour migrants, c'est merveilleux.
Des actuels. Hein.
Enfin, et bien pour finir. Cacapo, je sens que tu es chaud bouillant pour terminer cette émission. Tu vas donc parader ce soir et montrer qu'on ne te vole pas aussi facilement dans les plumes.
Z doit appartenir à l'ensemble.
Les atomes et les particules encore plus petites.
C.
Protons et
neutrons. Moins 0. Z plus 5 sur Z égale
la gravité se propage
dans l'ensemble des nombres complexes grand C.
Minuscule brin d'énergie.
Courbe et des distorsions
K dans le tissu même K de l'espace et du temps. Oh.
Quelle est la condition sur les solutions?
Selon la théorie des cordes, les constituants de la matière.
Votre explication ne me suffit pas.
J'ai pourtant clair.
Kakapo. Ah, j'appelle à ce que la France donne l'exemple et rétrocède les sommes qu'elle s'était engagée à verser à la Grèce. On ne peut pas accepter de s'enrichir sur le dos de nos partenaires européens en difficulté. Je demande à toutes les institutions européennes de penser en faveur de la restitution de ces sommes à la Grèce. Les citoyens ne peuvent accepter cette spoliation qui ne profite qu'aux banques et aux marchés financiers. Construisons un mouvement pour réclamer justice. Ben oui, parce que depuis des années, le peuple grec est placé dans d'incommensurables souffrances. Prétendument pour rembourser une dette dont il n'en est rien responsable. Pendant ce temps, la Banque Centrale Européenne et le Fonds Monétaire International remplissent leurs caisses à partir des frais financiers qu'ils accumulent grâce à cette dette. En effet, la Banque Centrale vient de gagner 7,8 milliards d'euros grâce aux intérêts des bons du Trésor grec qu'elle détient et le FMI a amassé un pactole de 2,5 milliards d'intérêts. Sur les prêts qu'il a concédés à Athènes, en 2013, ces deux institutions avaient pourtant accepté un système de redistribution afin que ces sommes soient reversées à l'État grec.
L'involution, ça veut dire... L'involution, c'est... L'involution, ça veut dire...
Et oui, cela n'a jamais été appliqué. En 2015, Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, a fait rompre ses pactes avec de multiples complices et, non content d'appliquer le pire des saignées aux Grecs, a décidé de garder sa part des profits financiers générés par ses dettes. En représailles de l'élection d'Alexis Tsipras sur le mandat de renégocier le montant de la dette de son pays. Les autres pays européens, dont la France, ont malheureusement fait de même. Ceci représente un manque à gagner de plus de 10 milliards au budget de la Grèce. Cela représente les deux tiers des dépenses de santé de la Grèce. 14 milliards en 2015 selon Eurostat. Dans un pays qui est dans une situation de crise sanitaire, J'appelle à ce que la France donne l'exemple et rétrocède les sommes qu'elle s'était engagée à verser à la dette, à la Grèce. On ne peut pas accepter de s'enrichir sur le dos de nos partenaires européens en difficulté, bordel de merde. Je demande à toutes les institutions européennes de peser en faveur de la restitution de cette somme à la Grèce. Les citoyens ne peuvent accepter cette spoliation qui ne profite qu'aux banques et aux marchés financiers. Construisons un mouvement pour réclamer justice. Signez la pétition de Patrick Le Yarrick, qui est le directeur de l'humanité et député européen, qui a lancé cette pétition. Cette pétition, vous pouvez la retrouver sur le site de l'humanité en cherchant bien et sans s'abonner, bien sûr. Cette pétition sera remise à la Banque Centrale Européenne. Emmanuel Macron, le député de l'heure.
Député,
ouais, carrément, mais oui, de l'heure. Bruno Le Maire, Chancellor of Germany, Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, le Conseil Européen, le Fonds Monétaire International. Merci.
Ouais.
Si, vous êtes bien à l'écoute du cul de l'église.
Il y a un petit blanc à l'antenne.
Merci, Cacapo. Un appel au soulèvement.
Mais oui, carrément, allez signer cette putain de pétition.
Donc, en allant signer la pétition, on commence le mouvement, c'est ça que...
Et là, en trois jours, on est à 9040 personnes qui ont signé la pétition et ils tablaient que sur 10 000.
C'est qui organise?
Du coup, c'est Patrick Le Yarrick.
Oui.
Directeur de l'humanité.
Et quand est-ce qu'il l'envoie au
prof de l'humanité ? Il y a du son, c'est parti mon kiki.
I seen 100 niggas die. I put that on my life. Lord, I wouldn't tell a lie unless it had to do with mine. In the middle of the night, killers coming for your life. All you wanna do is shine. I broke off the chains, only the realest remain. See you praying to Jesus, but will that help ease the pain? Seen a brother get slain for a jar full of change. Yet I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane. Is you a cat or a mouse? Keep them rats out the house. A lot of scars on my back, nigga, tattoos all around. 100 dead bitches, 100 black coffins. Money on his head, bitch, I'm trying to make a fortune. I need 100 black covers for 100 bad men. 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell. From 100 black Bibles, why we send them all to hell. I need 100 black coffins. Black coffins. Black coffins. I seen 100 women burn as they stood firm. Treat a nigga like a germ. What did she do to deserve? Put me on a farm, pig's feet in a jar. Serve it to me warm. Any questions, they hang them. Better pray for Django. Got me working in fields. Too many years, it get fatal. All I want is my woman. Such a wonderful mother. On the days that it rained, her smile bright like the summer. My revenge is the sweetest. Bitch, cause I'm coming. Gotta die in my arms for what you did to my mother. 100 dead bitches, 100 black coffins, 12 gauge shotgun, chest full of copper. I need 100 black covers for 100 bad men. 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell. From 100 black Bibles, why we send them all to hell. I need 100 black coffins. Black coffins. Black coffins. I need 100 black coffins. Black coffins. Oh Lord. Black coffins. I need 100.
Vous et êtes toujours au cul de l'église.
Et oui, toujours, on est à la bourre en plus. Et du coup, je laisse désannoncer notre technicien parce qu'il a pas parlé ce soir, donc je sais pas ce qu'il a mis.
Voilà.
Si, c'est sur la
bande de la copine de la bande originale de.
Non, mais laissez-le
Unchained.
Parler.
Django oui. Unchained.
Je sais même pas ce que c'est.
Ah ben voilà, il a parlé.
C'est la BO de Django, quoi.
Ouais, c'est la BO de Django, c'est Rick Ross, le rappeur. Qui a fait cette piste qui a été choisie par notre cher Tarantino pour la bande originale de Django Unchained.
Yes, ok. Merci Antoine, en tout cas pour ton vinyle que tu as ramené.
Avec plaisir, encore.
Et bien voilà, c'est la fin de votre émission.
Et oui, et oui. C'est fini.
Oh, oui, mais c'est alors, tellement triste.
Il y a Shams qui s'inquiète un peu qu'on reparle du
mais
sujet de la psychotechnique.
Non, dis un peu le mot. Délit à les mains, la main.
Voilà.
La migration des Dalai Lama psychotechniques.
Apparemment, le Dalai Lama serait dans la jungle de Calais en attente de passer en Angleterre.
Ouais, parce qu'il a passé
papier. Vous voyez, prenez-le en stop.
Il a passé papier, donc du coup...
Il a perdu son permis.
Du coup, il doit passer un examen psychotechnique.
Vous le verrez bien, il a un truc au milieu des yeux, là.
Il a signé la pétition au moins ou pas?
Je crois qu'il a même pas
un bonnet là.
Putain, quel bâtard.
En fait, le Dalai Lama, il transcende les sujets. C'est comme.
Et si je le croise,
en fait, vous vous rappelez de
Yann. Il est pas si bouddhiste que ça.
Yann, tu es notre Dalai Lama.
Allez, ciao.
Des gros bisous à vous.
Salut, à la semaine prochaine.